Bonjour à tous et à toutes. Pour ceux que je n'ai pas encore vus, la dernière fois que je suis venu, la semaine dernière, c'est pas vieux, je vous ai dit comme ça, la Shekinah est de retour avec Jésus. Rappelons-nous un petit peu le message de la dernière fois de Noël. Je vous rappelle ce que je vous avais dit. Pour moi, Noël me rappelle que je suis dans l'étable avec Jésus. La grâce est abondante. Le merveilleux est là. C'est magique. Les étoiles nous illuminent et Dieu sourit à son peuple. Nous sommes le peuple de Dieu. Son regard est bienveillant. Dieu nous aime. Noël, c'est le bonheur retrouvé. Jésus est venu nous réconcilier avec son Père. Par l'humilité de ce Noël lointain, nous sommes encouragés à dire merci. Merci Seigneur pour la vie avec toi, merci pour ton esprit. Mes yeux sont remplis de cette lumière éblouissante, c'est beau. Je regarde cette étable, et là comme l'image, je me prosterne et j'adore, la Shekinah est de retour. Et elle ne partira plus, elle est dans mon cœur, je contemple la gloire de Dieu. Shekinah, c'est le mot hébreu pour dire la gloire de Dieu. Et nous terminerons cette année, non pas sur un bilan, mais sur cette dynamique de la Shekinah, et je vous propose deux idées qui fermeront 2018 et ouvriront 2019. En premier, j'aimerais d'abord, avant de passer à ça, introduire par une prière, et je voudrais dire la prière de Paul. La prière de Paul aux Éphésiens, elle est tellement belle. Je crois qu'elle peut nous guider. Écoutez ça. C'est dans Éphésiens 3. Voici la prière de Paul. Paul dit comme ça, « Je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ » au verset 14 du chapitre 3. « De qui toute famille dans le ciel et sur la terre tient son nom. Je prie qu'il vous donne conformément à la richesse de sa gloire d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans votre cœur par la foi. Je prie que vous soyez enracinés et fondés dans l'amour, pour être capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur de l'amour de Christ, et de connaître cet amour qui surpasse toute connaissance, afin que vous suiviez pleinement, que vous soyez, remplis de toute la plénitude de Dieu, et de connaître cet amour. Vous savez, dans la Bible, quand on parle du mot connaître, on parle du mot fusion, d'être véritablement, d'adhérer pleinement à cet amour. Donc, pour illustrer notre premier point, Éphésiens 2, les versets 4 à 9, passage qu'on connaît bien, 4 à 9. Mais Dieu est riche en compassion à cause du grand amour dont il nous a aimés. Nous qui étions morts en raison de nos fautes, il nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités et fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Il a fait cela afin de montrer dans les temps à venir l'infime richesse de sa grâce par la bonté qu'il a manifestée envers nous en Jésus-Christ. En effet, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne puisse se vanter. Alors, nous avons dans ces versets trois mots importants, la grâce, sauvé et foi. Je vous propose que nous prions, justement. C'est notre Dieu, pas facile de terminer une année. Pas facile non plus de commencer une année. Donc c'est pourquoi je prie, comme nous avons vu dans cette prière de Paul, que tu illumines les yeux de notre cœur, que tu nous remplisses par ton esprit du discernement, de la sagesse, de l'amour, de tout ce qui est nécessaire pour nous, afin que nous puissions laisser avec abondance la puissance de ton amour se manifester dans nos cœurs. Je prie pour chacun d'entre nous, Seigneur, présent. Je prie aussi pour tous ceux qui sont absents pour une raison ou pour une autre, que dans notre Église, tu puisses nous unir dans ces instants, dans le même amour et la même foi, et que nous puissions nous réjouir que si une année est finie, en effet, une autre commence. Tu es la vie, tu es le chemin, et Seigneur, nous voulons te suivre, nous voulons marcher à tes pas, derrière toi, te suivre, et te laisser nous conduire. Protège ces instants, Seigneur. Protège ta parole, qu'elle soit toujours annoncée avec puissance et avec vérité. Nous prions que, justement, ces instants nous comblent et remplissent nos cœurs de tout ce que tu as préparé pour nous. Au nom de Jésus. Amen. La grâce est la source, la foi le moyen, et le résultat est que nous sommes sauvés. La foi est le canal du pardon qui nettoie chaque jour notre péché. Nous ne sommes pas sauvés par ce que nous faisons, nous, mais par ce que Jésus a accompli à la croix. C'est un cadeau. Il a payé la totalité du prix du rachat de nos péchés. Sa résurrection est une victoire pour chacun de nous. Ce même livre des Éphésiens nous dit que Dieu nous bénit matériellement et spirituellement en Christ. La bonne nouvelle est qu'il a une grâce pour chaque faute que nous commettons. Et nous, nous n'avons qu'à recevoir cette grâce, ce pardon acquis à la croix. Nous n'avons aucune excuse face au péché. Ce n'est pas à nous de pardonner. C'est à nous de demander pardon et à recevoir cette grâce, grâce qui a été acquise une fois pour toutes et qui est disponible pour nous. La grâce, ce n'est pas supplier, ce n'est pas attendre non plus sans arrêt, parce que tout déjà a été acquis il y a 2000 ans. Et je peux vous dire que vous êtes porteurs des capacités de Dieu et qu'il vous appelle à les mettre en pratique uniquement par la foi. C'est le don de Dieu. L'évangile de Matthieu nous raconte l'histoire d'une femme qui est venue implorer Jésus pour qu'il se rende chez elle pour guérir sa fille malade. Jésus, viens, car ma fille est malade. Je t'en supplie, aide-moi, dit cette femme. Mais Jésus ne réagissait pas. Alors cette femme s'est mise à adorer Dieu pour sa toute-puissance, à proclamer que Dieu pouvait guérir sa fille en un instant. Et Jésus s'est approché d'elle au moment où elle commençait à adorer Dieu. Jésus est allé la voir pour lui dire « Rentre chez toi, car ton enfant est guéri. » Nous avons déjà acquis la grâce de Dieu, mais nous devons apprendre à la recevoir. Ce que je veux vous dire aujourd'hui, c'est que le pardon de Dieu est gratuit et éternel. Lorsqu'il vous l'accorde, c'est pour toujours. Il ne veut pas vous faire payer vos fautes, car il l'a déjà fait à la croix. Il veut que vous arrêtiez de vivre sous le poids de la condamnation que vous vous infligez tout seul. Il a payé le prix de sa vie pour vous libérer. Il a tout accompli pour vous. C'est pas merveilleux, ça, que de voir que nous ne sommes pas responsables, finalement, de la grâce du péché. Nous sommes responsables de recevoir la grâce du péché. Nous sommes responsables de demander pardon à Dieu chaque jour. En cette fin d'année, Dieu nous encourage par justement cette vérité que nous sommes sauvés par grâce, de ne pas rester avec le poids d'un quelconque péché, mais de commencer, de finir cette année en déposant au pied de la croix tout ce qui fait que peut-être, dans cette année, il y a eu des tristesses. Il y a eu des moments d'égarement, des moments où la chair a repris le dessus. Eh bien, c'est le moment pour dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi. Et même de faire comme David, je le dis souvent, qui disait comme ça, pardonne-moi, même les péchés que j'ai faits, que j'ai oubliés et que je n'ai pas manqué de faire, pardon. Comprenez bien que Dieu nous offre un nouveau départ. Les choses anciennes sont passées et de nouvelles portes s'ouvrent sur l'avenir. Et tout cela par grâce. Ces projets pour notre vie en 2019 sont merveilleux et le meilleur est devant nous. N'est-ce pas extraordinaire? Je vous propose de regarder l'année qui vient devant nous comme un défi que Dieu nous lance. J'ai tout préparé.
Dans Éphésiens, il dit comme ça, des bonnes choses afin que vous les pratiquiez. C'est tout préparé. Il suffit de les saisir par la grâce. Ces projets pour notre vie en 2019 sont merveilleux, le meilleur est devant nous. Notre deuxième point, ça c'était le premier point, c'est le point de la grâce, et c'est important pour se dire 2018 n'a pas été une année mystérieuse, que nous n'avons pas vécue, dont nous ne sommes pas responsables, c'est une année que Dieu nous a permis de traverser. Alors c'est vrai, comme l'a dit notre frère, il y a peut-être des choses désagréables hein, qui se sont passées, mais contrairement à ces deux hommes qui se sont rencontrés pour parler de la mort sans savoir ce que c'était, nous avons ce privilège de savoir que nous n'avons pas à nous inquiéter de ça. Nous sommes tranquilles. Je ne sais pas vous, mais moi je suis apaisé. Cette semaine, j'ai rencontré un journaliste dans le journal d'aujourd'hui du GSL. Si vous y allez, vous y verrez une page où je suis en photo pour une recette de pêche à la truite. Ils sont venus me voir, il y a une page sur la pêche. Et cet homme m'a parlé de la pêche. Allez, on est resté 2 heures ensemble. Il m'en a parlé une demi-heure. Et puis après, il m'a dit, je crois savoir que vous êtes aussi engagé dans l'Église, que vous êtes un chrétien. Je dis, oui. Il me dit, moi, je suis quand même interpellé parce que vous croyez en quoi? Ben, je dis, moi, je crois en la Bible. Ah oui, mais laquelle? Il y en a des tas. Et il a commencé à m'envoyer, et je me suis régalé parce que pendant 1 heure et demie, il m'a abreuvé de questions. Cet homme avait une telle quête, un tel besoin de réponse, que pour moi c'était facile. Je n'avais pas besoin de réfléchir, j'étais là, je répondais, je dis, mais moi c'est tout écrit, vous savez. Et vous savez, la différence qu'il y a, c'est que vous prenez les Bibles, quel qu'elle soit le texte elle-même, à un mot près, il y a les interprétations se rejoignent. C'est toujours la Bible que Dieu a fait il y a 2000 ans. C'est poussé par le Saint-Esprit, il est écrit dans la Bible, que des hommes ont écrit de la part de Dieu. Donc, la différence qu'il y a, c'est que le jour, et c'est le cas pour chacun d'entre nous aujourd'hui dans cette salle, je le vois, où le Saint-Esprit nous a visités, la Bible n'est plus un livre. Elle devient la parole de Dieu. Et c'est ce qui fait que nous sommes tranquilles, que nous le croyons, parce qu'elle est vivante. Chaque jour, quand j'ouvre ma Bible, je vois le texte et j'écoute. Dieu me parle, parce que Dieu veut faire partie de ma vie. Il veut véritablement communiquer avec moi. Et chaque matin, il me dit, Michel, tu sais, t'es une personne importante pour moi. C'est Dieu qui le dit, hein. J'espère que chacun d'entre vous laisse Dieu lui parler de cette façon, parce que Dieu nous aime au point de nous dire des choses comme ça. Ce que David a écrit dans les psaumes, toutes les louanges qu'il a chantées et qu'il a dites, c'est parce que justement, il avait cette réalité de la Shekinah, comme on dit, de la gloire de Dieu, dans son cœur, profondément, à l'intérieur. Et ce que j'ai aimé, je crois que c'était le meilleur témoignage, c'est que à la fin de notre entretien, il m'a dit, on le voit, c'est en vous. Vous êtes passionné pour ça. J'ai dit, ah, mais comment pourrais-je ne pas l'être? Vous vous rendez compte quel privilège pour un homme comme moi de pouvoir parler avec Dieu. Et j'ai dit, vous savez, c'est possible pour vous, c'est possible pour chacun qui a envie de venir vers ce Dieu. Donc nous allons maintenant, puisque nous sommes tranquilles, que nous avons cette réalité, parler de 2019. Et je vous propose de Romains 8, 24, 25. C'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance qu'on voit n'est plus l'espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Mais si nous espérons ce que nous ne voyons pas, nous l'attendons avec persévérance. Pour le chrétien, l'espérance est un moteur qui permet de jeter sur chaque événement, sur chaque être, un regard renouvelé. Jésus a promis son retour définitif. Nous sommes donc habités, nous l'avons lu tout à l'heure hein, dans la Bible, nous sommes donc habités par cette certitude qui transcende les moindres petits actes de nos vies. Question ! Est-ce que ça transcende véritablement les actes de nos vies ? Nous ne sommes pas sur cette terre pour être uniquement des êtres humains qui mangent, qui dorment, qui travaillent, qui vivent. Nous sommes les témoins de Jésus-Christ. Allez, allez, toutes les nations, et annoncez-leur jusqu'à ce que je revienne la vérité. Baptisez-les. Chaque réalisation humaine porte le signe que Dieu est proche. Vivre dans l'espérance, c'est accepter l'angoisse et même, en même temps, vivre dans la joie. Il y a une dynamique de l'espérance. Frères et sœurs, est-ce que nous partageons cette idée qu'il y a une dynamique de l'espérance? Vous savez, dans notre cœur, tout dépend. On en a parlé la dernière fois, si véritablement la Shekinah, j'aime bien ce mot, je ne sais pas pourquoi, mais je le trouve puissant, je le trouve à l'image de Dieu. Est-ce que véritablement la gloire de Dieu, pour reprendre en termes courants, remplit notre cœur au point que nous sommes transcendés et que chaque chose que nous traversons, que nous vivons, sont des choses merveilleuses? Je vous ai dit, j'ai eu une intervention chirurgicale au mois de juillet où, avec une septicémie, c'est comme ça, hein, j'ai failli y rester. Mais au moment où je me suis rendu compte qu'il y avait une possibilité de partir, j'ai dit à Dieu, écoute, c'est ta vie. Et franchement, je vous l'assure, j'ai lâché et je me suis senti en paix. J'étais tranquille, j'ai laissé dans les mains de Dieu. Pourquoi? Parce que justement, au plus profond de mon cœur, il y a cette réalité que ma foi repose sur sa parole et je crois profondément. Jésus dit comme ça, tout est possible à celui qui croit. Elle dit, là, l'homme qui est un homme en face de lui dit comme ça, je crois. Mais comme tous les hommes, viens au secours de mon incrédulité. Je reste un homme. J'aime bien cette tendresse vis-à-vis de Jésus, de cet homme qui se dévoile, qui ouvre son cœur. Mais il espère quand même, il est sûr, hein, Jésus, il vient le voir, seulement il dit, je suis pas forcément le meilleur. Et alors où j'écris cette méditation, je regarde 2018 et je compte les défaites. À chaque défaite, il devient plus difficile d'espérer qu'elle me rapproche de la guérison. Or, il arrive que la vie nous fasse baisser les bras. Mais dans notre vie spirituelle, c'est tout le contraire. Non seulement le fait de cultiver l'espoir en Dieu constitue-t-il une stratégie, mais encore celui de nous cramponner à lui avec foi et confiance est la seule stratégie qui vaille. Dans l'épreuve, cramponnons-nous à Dieu avec foi et confiance en lui. Je pense que vous connaissez cette histoire de Marie Durand. Hein? Pour ceux qui ne connaissent pas, Marie Durand est une femme qui a fait partie de cette traversée du désert et qui s'est retrouvée en prison, 37 ans si je me souviens, la tour de Constance. Et nous sommes allés avec ma femme visiter cette tour de Constance, sur le haut, sur le comment on appelle ça, je ne sais plus, la poutre hein, qu'il y a, il y a écrit « Résister » en vieux français, hein, pour résister. Elle a écrit ça en haut. Et je voudrais vous emmener dans Michée, venez avec moi dans Michée, chapitre 7, un et deux. Michée chapitre 7, 1 et 2. Malheur à moi, dit Michée, car je suis comme à la récolte des fruits, comme au grappillage après la vendange. Il n'y a pas de grappes à manger, pas une de ces figues précoces que je désire. L'homme de bien a disparu du pays. Et il n'y a plus de juste parmi les hommes. Ils sont tous en embuscade pour verser le sang. Chacun tend un piège à son frère. Leurs mains sont habiles à faire le mal. Le prince a des exigences. Le juge réclame son salaire. Le grand exprime ses désirs et ils font ainsi cause commune. Le meilleur parmi eux est pareil à une ronce. Le plus droit est pire qu'un buisson d'épines. Le jour annoncé par les prophètes. Le jour de ta punition approche. C'est alors qu'ils seront consternés. Ne crois pas un ami, ne te fie pas à un intime.
devant celle qui repose sur ta poitrine, garde-toi bien d'ouvrir la bouche. Car le fils méprise le père, la fille se soulève contre sa mère, la belle-fille contre sa belle-mère. Chacun a pour ennemi les membres de sa famille. J'ai lu tous ces versets parce qu'il fallait les lire. Et là, le prophète dit, mais moi, je regarderai vers l'Éternel, je mettrai mon espérance dans le Dieu de mon salut, mon Dieu m'exaucera. Pour dire que par rapport à tout ce que je vois autour, moi je mettrai mon espérance dans l'Éternel. Que faut-il pour garder l'espoir dans l'épreuve? Michée nous le montre. Guetter, attendre et prier, se souvenir. Dieu entend nos cris, même dans la pire des situations. Conserver notre espoir en Dieu et agir en conséquence. Voilà notre stratégie. Celle qui nous aidera à tenir le coup, envers et contre tout. En fait, espérance, foi, confiance et amour de Dieu se conjuguent pour nous permettre d'aller toujours plus loin, d'être sereinement dans la certitude que tout chemin mène au Père. Alors espérer en 2019. Eh bien, espérer, c'est d'avoir confiance dans l'avenir. Espérer pour un chrétien, c'est croire en un avenir aux couleurs de Dieu. L'espérance chrétienne repose sur la foi en Dieu et la foi en sa promesse. Dans les Écritures hébraïques, cette source mystérieuse de la vie, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, hein, Dieu se fait connaître parce qu'il appelle les humains à entrer dans une relation avec lui. Il établit une alliance avec eux. La Bible définit les caractéristiques du Dieu de l'alliance par deux mots hébreux, Ezed et Emet. Par exemple, dans le psaume 25:10, tous les sentiers de l'Éternel sont bonté et fidélité. En général, on les traduit par amour et fidélité. Ils nous disent d'abord que Dieu est bonté et bienveillance débordante pour prendre soin des siens, et en deuxième lieu, que Dieu n'abandonnera jamais ce qu'il a appelé entrer dans sa communion. Dans la Bible, cette espérance est souvent exprimée par une promesse. Cela commence déjà avec l'histoire d'Abraham, où il est dit dans Genèse 12, les versets 2 et 3, « Je te bénirai, dit Dieu à Abraham, et par toi te se béniront toutes les familles de la terre. » Un autre texte de Paul, dans Romains 5:5, « L'espérance ne déçoit point, parce que l'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous fut donné. » Dans la Bible, la promesse divine ne nous demande pas de nous asseoir et d'attendre passivement qu'elle se réalise. Avant de parler à Abraham d'une vie en plénitude qui lui est offerte, Dieu lui dit « Quitte ton pays et ta maison pour la terre que je te ferai voir. » Genèse 12, 1. Vous voyez, souvent, il y a une démarche de foi, il fallait le faire. Abraham était un homme puissant, riche, qui avait de nombreux troupeaux, et Dieu lui dit, quitte ton pays. Le pays était bien, mais non, quitte ton pays, et nous verrons qu'après, quand il sera dans la plaine avec son neveu Lot, et qu'il lui dira, choisis, neveu, connaissez l'histoire de Sodome et Gomorre, choisira ce qui, à ses yeux, semblait être mieux. Et puis Abraham ira dans la montagne. Connaît cette histoire. Paul évoque les souffrances de la création en attente, les comparant aux douleurs de l'enfantement. Puis il continue dans Romains 8, « Nous aussi, qui possédons les prémices de l'Esprit, nous gémissons intérieurement. » Notre foi ne nous met pas dans un état privilégié. Hors du monde, nous gémissons avec le monde, partageant sa douleur, mais nous vivons cette situation dans l'espérance, sachant que dans le Christ, les ténèbres passent et que déjà, lui, la lumière véritable, 1 Jean 2,8. Espérer, c'est donc découvrir dans la parole de Dieu une vie en 2019 qui va de l'avant et que rien ne peut arrêter. Rappelez-vous cette idée de la Bible, qui lorsque je laisse le Saint-Esprit dans mon cœur faire ce qu'il veut, ce qu'il y a d'extraordinaire avec Dieu,
Nous avons tous parlé de la toute-puissance de Dieu, mais ce qui est extraordinaire, Dieu nous montre comment vivre véritablement avec lui, ben c'est par l'humilité, c'est par l'absence même de toute volonté de prendre sur les autres. Non, Dieu nous laisse la liberté de choisir, de le laisser œuvrer en nous. Et quand il fait ça, quand il est libre, sa parole devient la parole de Dieu. C'est pour ça que certains me disent, tu entends la parole, comment tu fais ? Je laisse Dieu parler. Je crois que c'est ce qu'il y a de plus simple. En 2019, espérer, c'est persévérer en 2019. C'est résister, comme disait Marie Durand. Mais nous sommes dans un pays, heureusement, qui est bien. On a quand même beaucoup de privilèges. Donc, persévérons en 2019. Je vais prier. Persévérons et surtout, laissons ta parole nous traverser le cœur pour nous instruire jour après jour. Tu as des choses à nous dire. Pardonne-moi, Seigneur, chaque fois où je crois que c'est moi qui dois parler, qui dois dire les choses que j'ai envie de dire. Non, je préfère venir, comme ce matin, à tes pieds et déposer ma volonté. Je veux que tu fasses ta volonté dans mon cœur. En premier jour de cette année qui est devant nous, je veux publiquement le décider que je veux que tu fasses ta volonté dans mon cœur. C'est toi le roi de rois, c'est toi le Seigneur Tout-Puissant, c'est toi qui es Dieu. C'est pour ça que je crois que je n'ai pas à avoir peur. La Bible me dit comme ça que tu pourvois, que tu as préparé des choses d'avance avant qu'on les pratique, alors je n'ai pas à m'inquiéter. La mort pour moi n'est qu'un passage. Et Seigneur, comme je disais à ce journaliste, c'est pas mon corps qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est l'esprit que tu as mis en moi. Parce que cet esprit, effectivement, est éternel. Et nous sommes éternels en devenir. Et nous voulons, Seigneur, nous réjouir de cette perspective. Nous ne savons pas ce que 2019 sera devant nous. Nous savons, par contre, que tu seras avec nous et que nous pouvons te faire confiance. Bénis mes frères et sœurs, Seigneur. Bénis notre Église. Tu vois que nous avons beaucoup de points importants. Nous avons présenté devant toi. Nous avons besoin d'un pasteur. C'est une réalité aussi. Et tu connais tous nos besoins. Tu sais toutes choses. Alors nous te faisons confiance. Nous voulons justement te dire, Seigneur, s'il te plaît, fais ta volonté. Parce que c'est ce qu'il y a de meilleur pour nous. Au nom de Jésus. Amen.